Patrick, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, les familles des jeunes filles portées disparues 3 jours après l'attaque du groupe djihadiste Boko Haram contre les lycées de filles de la localité de Dapchi, dans le nord-est du pays, attendent le retour de leurs enfants avec inquiétude ce jeudi, alors que les autorités locales ont annoncé la libération de plusieurs d'entre elles. Abdoulaye Bego, porte-parole du gouverneur de l'État Diobé, où est situé l'établissement, a affirmé que certaines des dizaines de lycéennes manquantes avaient été secourues et prises en charge par l'armée. Mais il n'a pas précisé le nombre de lycéennes retrouvées ni les circonstances dans lesquelles elles avaient été libérées. Ce rapt a ravivé la crainte d'un nouveau Chibok, du nom de la ville de l'État voisin de Borno, où Boko Haram avait enlevé 276 élèves d'un internat en avril 2014, provoquant une vague d'indignation mondiale. Selon des témoignages d'habitants de Dapchi, les militants islamistes, lourdement armés, ont attaqué leur village lundi en tirant en l'air et en faisant exploser des grenades. Les assaillants sont restés moins d'une heure de temps, selon Mohamed Kabo, un vendeur de thé, qui affirme avoir vu environ 9 véhicules se diriger vers l'école des filles. Toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissent demain vendredi à Bruxelles pour renforcer leur soutien politique et financier au G5 Sahel, la force régionale africaine qui lutte contre la menace persistante des groupes djihadistes dans la lisière sud du Sahara. Les détails avec Anne Albertson.
Pour cette conférence de haut niveau, le président français Emmanuel Macron, très engagé sur le dossier, et la chancelière allemande Angela Merkel seront aux côtés des chefs d'État des pays du G5 Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad. Au total, cette conférence des donateurs rassemblera 18 dirigeants européens présents à Bruxelles pour un sommet informel de l'Union européenne programmé l'après-midi et une dizaine de ministres des Affaires étrangères, dont ceux du Sénégal, d'Arabie Saoudite, de Tunisie, du Maroc ou de Norvège. Après avoir été dispersés lors de l'intervention française en 2013, les factions djihadistes ont trouvé un nouveau souffle dans le nord et le centre du Mali, malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de la force française Barkhane, qui mobilise 4 000 hommes dans la région. Multipliant les attaques contre ces forces et l'armée malienne, les groupes djihadistes ont étendu en 2017 leurs actions au centre et au sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi régulièrement touchés.
Au Togo, le dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique dans le pays a connu ses premières avancées avec la libération de 45 personnes arrêtées lors des marches contre le pouvoir, l'une des exigences de l'opposition. Ce dialogue devrait notamment aborder le rétablissement de la constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Pour en parler, John Lindon s'est entretenu avec Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. Monsieur Olympio est de passage ici à Washington. On l'écoute.
C'est une nouvelle qui est réjouissante, mais il faut de suite noter que ce n'est qu'une partie des personnes qui ont été libérées et que nous devons avoir l'intégralité des personnes emprisonnées qui doivent retrouver leur liberté.
Et qu'est-ce que vous comptez faire pour cela?
Je pense que la démarche est de continuer d'insister et de se faire comprendre et que le régime comprenne qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que les droits de l'homme soient respectés et que les citoyens soient respectés dans leurs droits. Et je pense que cela payer pour les 45 premières personnes et il faut poursuivre pour les autres aussi.
Vous réclamez également le retour à la constitution de 1992.
Et ce que nous demandons, c'est le retour de la constitution de 1992 dans sa version originelle. Et bien entendu, comme tout texte de loi, la constitution a des implications et il faut que nous tenions compte des implications qui en découlent, c'est-à-dire la limitation du mandat à 2 et que nul ne peut faire plus de 2 mandats.
L'actuel président peut-il être candidat en 2020, à votre avis?
Le peuple togolais demande qu'il puisse quitter le pouvoir immédiatement. Je pense que le bon sens commande que l'on puisse respecter la voix du peuple et il est complètement inimaginable que l'on puisse envisager que le chef de l'État actuel puisse encore être présent dans une élection présidentielle. Ce serait un non-sens qui n'a pas lieu d'être.
Vous êtes allé au département d'État américain à Washington. Qui êtes-vous allé voir là-bas et pourquoi?
Nous avons eu l'honneur d'être reçus par M. Robert Scott, qui est l'adjoint au secrétaire d'État. Il est en charge des affaires africaines et qui nous a prêté une oreille attentive. Nous avons eu l'opportunité de lui expliquer la situation togolaise et surtout de faire comprendre que après 50 années d'exercice d'un pouvoir absolu, il est temps de trouver une solution pacifique qui n'humilie personne, mais qui procure au peuple togolais ce qu'il est en droit d'attendre. Et nous avons eu une oreille attentive et ça a été fructueux comme séance de travail.
Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais et membre de la coalition des 14 partis de l'opposition, de passage ici à Washington.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, un mouvement musulman qui se dit proche du parti présidentiel appelle à une marche dimanche pour contrer la manifestation anti-Kabila préconisée par les catholiques. Les détails avec Eddy Isango.
L'Alliance des kabilistes musulmans, AKAM-PPRD, c'est le nom du groupe. Il appelle à une marche pacifique dimanche à Kinshasa, en même temps que celle organisée par des opposants catholiques au président Joseph Kabila. Les groupes n'est officiellement reconnu ni par les partis présidentiels, ni par la communauté musulmane de la RDC, minoritaire, avec environ 10% de la population. Les groupes disent vouloir inviter les chrétiens à se préparer à gagner des élections et non à créer des troubles dans le pays, a affirmé un des signataires de la lettre, Mondo Moussa, cité par l'AFP. Les catholiques démentent au président Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'est achevé en décembre 2016, de déclarer publiquement qu'il ne va pas se représenter à la présidentielle prévue le 23 décembre 2018. Les autorités ont interdit toute manifestation publique depuis novembre. Les deux dernières marches à Kinshasa ont été sévèrement réprimées.
En Tanzanie, une centaine d'organisations de la société civile dénoncent les violations des droits de l'homme commises par le régime du président John Magufuli. C'est une démarche inédite dans le pays. Morgan Guerriek.
105 organisations de la société civile tanzanienne dénoncent dans un communiqué conjoint des attaques, actes de torture et disparitions forcées. Elles citent le cas du député de l'opposition, Tundu Lissou, victime d'une tentative d'assassinat, le journaliste Azori Gwanda, porté disparu depuis l'année dernière, et l'étudiante Akilina Mafta, tuée vendredi par une balle perdue pendant la répression d'une marche de l'opposition. Ces ONG demandent la mise en place d'une commission électorale indépendante avant les élections générales de 2020 et la tenue d'un dialogue national. La semaine dernière, l'ambassade américaine à Dar es Salaam avait critiqué l'enlèvement puis la mort de l'opposant Daniel Jones. Auparavant, les évêques catholiques avaient dénoncé les violations de la liberté d'expression par le gouvernement de John Magufuli. Surnommé le bulldozer, le président Magufuli, 58 ans, est qualifié d'autocrate par ses détracteurs.
Crise migratoire en Israël, première arrestation en vertu d'un plan controversé donnant aux migrants illégaux le choix entre le départ du pays et la prison. 7 migrants érythréens qui étaient détenus au centre de rétention d'Olot ont été transférés mardi dans un pénitencier, d'où la décision des migrants d'entamer une grève de la faim. Mais l'espoir n'est pas perdu pour tous les migrants, les arrestations ne concernant pour l'instant que les hommes célibataires, nous dit Aura Silber, une journaliste en Israël.
L'avancée en termes de protection de ces migrants, c'est donc cette récente décision de la Cour suprême israélienne qui dit que ceux qui ont fait la demande, donc dont la procédure est engagée, même s'ils n'ont pas encore la réponse des autorités, ne peuvent plus faire l'objet d'une expulsion. Ce plan, en fait, concerne les hommes célibataires, ceux qui n'ont pas charge de famille, et donc, a fortiori, ne concerne ni les femmes ni les enfants. On considère que ceux qui n'ont pas de responsabilité familiale doivent être renvoyés dans leur pays d'origine ou vers un État d'Afrique ou éventuellement le Canada, qui est le pays d'ailleurs qui reçoit à ce jour le plus de migrants africains expulsés d'Israël.
Notre consoeur Aura Silber joint à Tel Aviv en Israël. Et pour terminer l'actualité ici aux États-Unis, plus jamais ça. Fédérés par ce mot d'ordre répercuté sur les réseaux sociaux, les jeunes de Parkland ont investi mercredi la capitale de la Floride, Tallahassee et aussi Washington pour tenter d'arracher un durcissement de la législation sur les armes à feu aux États-Unis après le massacre qui a fait 17 morts dans leur lycée. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.